On va commencer, le stream normalement est en place. Donc voilà, Lightning Talk, on va commencer par Philippe Martorell de Planète Science qui va nous présenter les défis solaires.
Pas uniquement, je voudrais vous, surtout vous présenter l'ensemble de l'association Planète Science. Donc Planète Science, à l'origine ANCS, Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse, a été créée à l'origine, tu peux envoyer la première vidéo s'il te plaît, a été créée à l'origine pour aider les petits jeunes qui fabriquaient des fusées dans leur garage à éviter de se faire péter la gueule. Le CNES a fourni au club, à condition qu'il soit suivi par une association et que des lancers soient coordonnés sur la France entière. L'association organise les lancements des fusées expérimentales sur un camp militaire bien sûr, pour que personne ne puisse s'installer sous les tirs de fusées. Ça a été un bon moment à Millau, ce que vous voyez en ce moment. Les fusées expérimentales, c'est des engins de 10 à 30 kg qui montent de 1000 à 3000 mètres d'altitude en moins de 40 secondes. Ensuite, la descente se fait sous parachute. On a créé au fur et à mesure des années des versions plus ou moins légères. Voici une fusée qui a été fabriquée par un collège, une classe de collège, avec son petit parachute. En mini-fusée, le but est d'apprendre à sortir un parachute, donc faire la mécanique et éventuellement l'électronique, pour que le parachute sorte à culmination. On s'est diversifié au fur et à mesure. Tu m'envoies le ballon, s'il te plaît. On s'est diversifié, en particulier dans les ballons stratosphériques, des nacelles de 3 kg qui montent jusqu'à 30 km d'altitude. 30 km d'altitude, vous imaginez bien qu'un avion de ligne, ça vole à 12 km au maximum. Donc on est largement au-dessus de tout ça, avec des conditions environnementales exceptionnelles, une pression qui est environ 1% de la pression au sol, et une température de moins 50 degrés. Des choses particulièrement intéressantes à analyser en regardant les courbes de télémesure, parce qu'effectivement, il y a de la télémesure à bord. On a un émetteur que l'on fournit au club et qui permet de redescendre au sol des mesures telles que la pression, et donc l'altitude, la température, la vitesse, la position GPS, l'humidité, j'en passe, et d'autres trucs étonnants. Toutes ces activités, d'une façon générale, que ce soit ballon, fusée et les autres activités, ont fait en sorte que cela soit abordable par tout un créneau d'enfants. Alors généralement, on s'adresse aux écoles, du primaire jusqu'à l'école d'ingénieurs. Il ne faut pas croire que les primaires ne feront que du colorier des nacelles de ballons stratosphériques. Je vous cite un exemple, quelque chose d'un peu étonnant. Je prends un rouleau de PQ, je gonfle à l'intérieur un tout petit ballon de baudruche, je mets une épingle au bout, et quand petit ballon de baudruche éclate, j'ai atteint une certaine altitude. J'ai un altimètre de fortune. Les défis, s'il te plaît. Je voulais aussi vous parler dans notre diversité, après l'astronomie, les énergies, la robotique, on a développé une activité qui s'appelle les défis solaires. Donc on propose aux écoles de construire un véhicule solaire radiocommandé. Donc ça aussi, c'est une platine de modéliste habituel avec son récepteur et tout. Et la particularité, bien sûr, c'est d'être propulsé au solaire. Nous organisons le week-end prochain à la Cité de l'Espace cette rencontre, donc vendredi, samedi, dimanche. Et cette rencontre, vous y êtes cordialement invité. Vous pourrez assister à cette épreuve. Et le vendredi et le jeudi après-midi, on serait heureux d'avoir un coup de main pour installer la piste directement sur place, ou venez me voir tout à l'heure pour voir plus de précisions.
Merci Philippe. On va continuer avec le prochain talk qui est par... On retrouve Olivier Benriès de Bitcoin.
De Bitcoin, non, parce que j'appartiens pas à Bitcoin, heureusement. Personne n'appartient à Bitcoin, c'est un système décentralisé, libre. Et c'est déjà une bonne chose d'avoir une monnaie qui n'appartient à personne. Je pense que c'est un des principes fondateurs du Bitcoin, d'être libre, communautaire, les spécifications sont ouvertes. Quelle est l'idée de Bitcoin ? C'est d'être une monnaie, mais aussi d'être un moyen de transfert de monnaie, c'est-à-dire de vouloir être à la fois l'euro et PayPal. Pourquoi ? Parce que on l'a vu dans des cas comme WikiLeaks, des organismes tels que Visa peuvent décider de ne plus transférer leurs fonds à telle ou telle personne ou à tel ou tel État. Et pourquoi des sociétés s'octroient le droit d'interdire le transfert des capitaux ? Est-ce que ce n'est pas une liberté que d'avoir le droit de transférer son argent ? Donc ça a été... alors, c'est peut-être pas le principe fondateur de Bitcoin. C'est vrai qu'il y a quand même un flou sur la genèse de Bitcoin. Une mythologie, son créateur inconnu, des primo-accédants qui ont peut-être une fortune. Toujours est-il que le système existe. Il est resté pendant un an complètement sans valeur, puisqu'il y avait des bitcoins qui ne s'échangeaient pas, qui se généraient et qui ne rapportaient rien à personne. Puis un jour, on en a fait une valeur, des places d'échange se sont créées et une spéculation, pour dire le terme, a commencé à apparaître. Et Bitcoin est devenu une valeur presque fiduciaire. En tout cas, c'est une monnaie, c'est du cash, mais du cash sur Internet. Elle est anonyme, elle est apolitique, elle appartient à personne, et tout le monde peut s'en servir. L'usage de Bitcoin est simple. La partie portefeuille Bitcoin, vous l'utilisez comme une application, mais vraiment basique, à mémé. Hein, n'importe qui peut l'utiliser, il est enfantin. Envoyer et recevoir des Bitcoins, c'est envoyer un mail, parce qu'en fait, dans l'état d'esprit, c'était un peu ça au départ. Bitcoin est une réflexion mûrie depuis plusieurs dizaines d'années, qui servait à l'époque en fait plutôt pour essayer de lutter contre le spam. Ça n'a jamais vraiment abouti, mais c'était un peu l'état d'esprit. Il fallait rendre l'information unique et créer une valeur à chaque information qu'on ne pouvait pas reproduire, et ça a servi de base à Bitcoin. Et ça générait une valeur, puisque chaque information était unique. Donc l'aspect portefeuille du Bitcoin, c'est simple. Hein, n'importe qui peut envoyer et recevoir. À partir du moment où on trouve une personne pour vous en donner ou pour vous en vendre, on en reparlera. Après, il y a une partie technique qui est intéressante aussi pour ceux qui s'intéressent à l'aspect l'aspect technique de Bitcoin. On peut générer des Bitcoins avec son ordinateur. Pour faire court, c'est ce qui a intéressé beaucoup les gens au début. Ils se sont dit, j'ai de la puissance de calcul, je vais faire des bitcoins. C'est plus tout à fait vrai. Et puis de toute façon, le protocole Bitcoin protège contre ce genre de choses. Un peu comme Wikipédia, qui est sensible à des gens qui vont spammer les pages. Les gens qui veulent faire beaucoup d'argent avec Bitcoin, s'ils ont de la puissance, ils peuvent effectivement faire un peu d'argent. Mais Bitcoin se protège, ajuste son degré de difficulté. Donc, ce n'est pas parce que vous avez acheté un super data center chez Amazon pour miner que vous aurez plus d'argent que les autres. La monnaie Bitcoin, l'algo en tout cas, qui le dirige, est prédictible. Donc, on ne peut pas modifier Bitcoin dans le temps. Je fais trop long, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais c'est une monnaie qui est très jeune, qui a déjà connu d'énormes bulle spéculative et qui se cherche encore. Moi, je vous conseille de vous documenter un tout petit peu, ne serait-ce que sur ce que ça peut apporter pour des échanges, des associations, pour des dons, pour du transfert anonyme d'argent. Malheureusement, c'est là où c'était assez décrié. Et vous verrez que ça peut... alors, c'est capitaliste, mais ça peut réellement changer toute l'approche monétaire.
On va penser à Vanda qui va nous présenter le EHSM de mai 2014.
Oui, donc en décembre dernier, est-ce que tu peux me caler la page, s'il te plaît ? Voilà, en décembre dernier, c'est produit pour la première fois l'Exceptionally Hard and Soft Rare Meeting in Berlin. Et durant cet événement, donc plus de 30 conférences, une dizaine de workshops, et donc également le format des Lightning Talks qui s'est mis en place. Ces sessions, je tiens tout de suite à préciser, se sont déroulées en parallèle du 29C3 qui se déroulait cette année à Hambourg. Donc pour la plupart des participants qui sont allés sur Berlin, ça a permis d'aller échanger, faire des échanges entre des ateliers. Donc durant ces 30 conférences, est-ce que tu peux descendre un tout petit peu dans la page ? Dans la même page, voilà, cela vous permet de voir la variété des différentes sciences. Donc c'est des domaines très pointus, en physique, en électronique. Donc je vous laisserai consulter le programme. Je suis ici pour vous informer que a été voté il y a quelques jours le renouveau de cet événement pour mai 2014. Donc vous pouvez contacter dès à présent les orgas sur la page. Ouais, je pense que c'est celle-ci. Non, je pense que c'est sur la page média parce qu'ils ont centralisé le streaming des vidéos qui sont maintenant accessibles. Et donc vous pouvez envoyer vos soumissions pour qu'on puisse commencer déjà à préparer le programme. Donc on vous accueille et on vous remercie beaucoup. Je remercie le THSF pour cette annonce.
On va continuer avec Guillaume qui va nous parler de refusion, donc tout à fait dans le thème du THSF.
Bonjour, moi je suis membre de l'association Pola. Donc c'est une association sur Pau, c'est pour le logiciel libre. Enfin, bon, on est dans le thème. Donc au niveau de l'association... donc on fait pas mal de choses, chacun y amène sa pierre, et en l'occurrence là je vous parlais de ce que tout le monde a chez lui, un ordinateur. Donc la refusion, c'est par rapport à vos ordinateurs, en fait, au niveau des ce qu'on appelle les GPU la plupart du temps, ou les chipsets. Donc c'est des composants électroniques qui sont ou même sur les barrettes de mémoire vive, c'est des composants électroniques qui sont soudés sur vos équipements. Et cette soudure-là, en fait, elle n'est pas traversante. C'est-à-dire qu'elle est prise en sandwich entre deux morceaux de plastique, pour résumer. Et sur le long terme, quand vous utilisez votre ordinateur, en fait, elle se dilate, elle se rétracte, etc. Et ça finit. Donc, les pannes qu'on a très régulièrement, notamment, il y a des séries de portables qui sont très connues pour ça, pour tomber en panne et ne plus s'allumer. Ça ventile seulement, vous avez deux jolies petites LED, mais vous n'avez plus rien. Et donc, ça se répare. Dans le temps, on arrive à prolonger un petit peu la durée de vie avec un petit peu de matériel. Ça coûte un petit peu d'argent, mais ça se fait, ça commence à se faire un petit peu plus. On l'entend souvent parler pour les consoles de jeux vidéo. Donc la refusion, en fait, c'est un procédé qui consiste, dans un premier temps, à injecter un flux au niveau de ses composants pour nettoyer les contacts. Parce qu'avec la dilatation et la rétractation, vous avez des micro-fissures qui peuvent apparaître et parfois elles s'oxydent. C'est pour ça que vous n'avez plus de contact qui se fait correctement et du coup vous n'avez plus d'affichage puisque le procédé d'allumage de l'ordinateur ne se fait plus correctement. Donc en procédant à cette refusion-là, en fait, vous allez suivre une courbe de température pour réchauffer donc, l'ensemble de la carte et le GPU ou le chip, la mémoire vive, le BGA que vous avez sur la mémoire vive, etc. La RAM. Donc, c'est un procédé qui se démocratise un petit peu, on n'entend pas trop parler, c'est quelque chose que je n'ai pas vu beaucoup jusqu'à présent. Tout ça pour vous dire, en fait, le message à passer, c'est quand vous allez chez un réparateur qui vous dit que votre ordinateur ne marche plus, qu'il est bon pour la poubelle, ben, gardez-le sous le coude, parce que ça peut se réparer si autour de vous, vous avez quelqu'un qui se lance et qui essaye de faire de la réparation comme ça. Voilà. Et donc, c'est juste prolonger la durée de vie, parce qu'en règle générale, ce n'est pas un procédé avec du matériel en dessous de 1000 euros qui permet d'avoir des procédés en fait, qui sont fidèles et de reproduire un process identique à chaque fois. Voilà, pour attaquer ce genre une gamme de process qui permet d'être plus fidèle. Pour vous donner un ordre d'idée, sur du matériel en dessous de 1000 euros, par exemple, Et vous arrivez à un taux de réussite à peu près entre 30 et 40% maximum. C'est déjà pas mal quand on sait que ça finit la poubelle. Et surtout, ça évite de polluer en plus, puisque ça va se dégrader par là, ou ça va finir, on ne sait pas où. Voilà, donc ça c'était pour la partie BGA. Donc pour éviter de faire chauffer vos ordinateurs, si vous avez besoin de puissance de calcul, contactez-nous, on a ce qu'il faut.
Je rappelle pour ceux qui vont passer qu'il y a un minuteur ici que vous pouvez regarder. Ok, on continue. Alors, oh, le lundi au soleil. Non, c'était. Alors, désolé, je m'intercale. En trois minutes, ça fait un bout de temps que j'avais envie de transmettre ça. Ça m'a sauvé le dos en fait. J'avais hyper mal au dos à force de porter mon sac à dos et toujours être sur un laptop toute la journée, tout le temps. Et ça devenait pénible. Il y a au moins une fois par an où je me retrouvais avec le cou complètement bloqué, où je ne pouvais plus bouger. Et en fait, quand on porte quelque chose sur le dos, qu'on a des mauvaises postures, c'est très souvent au niveau des dorsaux, des trucs sur la... Alors, il va falloir que tu me tiennes le micro. Et j'ai vu un kiné un jour, je suis allé le voir en m'étant beaucoup posé la question. Et je lui ai dit, voilà, j'ai l'impression que c'est mon sac à dos, j'ai l'impression que c'est le laptop. Est-ce qu'il n'y a pas des exercices que je pourrais faire pour me renforcer un petit peu les épaules et le dos? Et il se trouve que c'était précisément sa spécialité, qu'il avait inventé des exercices à cette fin. Donc on s'est très bien entendu, lui et moi. Et il m'a montré une série d'exercices que j'essaye de faire au moins une fois par jour. Vous allez voir, c'est super rapide. Ça prend absolument aucun temps. Quand je sens une tension sur le cou, sur le dos, j'essaye de le faire un petit peu plus souvent, plusieurs fois par jour. Et depuis que je fais ça, j'ai plus le cou bloqué et j'ai beaucoup moins mal au dos. Alors je vais vous montrer, c'est une série d'exercices. L'idée, c'est d'être relaxé comme ça. Et vous faites avec les épaules on, off, on, off. Vous laissez tomber, on, off. Et vous faites ça comme ça 4 ou 5 fois, off. Et vous chauffez les dorsaux. Ensuite, vous faites des espèces de roulis comme ça dans un sens, petite dizaine de fois. Et ensuite, des roulis dans l'autre sens. Autant, vous sentez que ça chauffe. Ensuite, vous dissociez une fois comme ça les épaules dans un sens. Vous dissociez dans l'autre sens. Là, les dorsaux sont bien chauds et vous faites... un coup à gauche, un coup à droite. Je ne sais pas si avec le micro on va entendre le coup craquer, mais ça fait un bien fou. Et quand vous faites ça et qu'il y a le coup qui craque, eh bien en fait c'est que ça va mieux. C'est que vous libérez de la tension sur les dorsaux et vous pouvez éventuellement continuer, vous pouvez le refaire. Une fois que vous avez bien fait le coup à gauche et à droite et que ça ne craque plus, vous faites en avant, en arrière, comme une tortue. Il y a des tout petits craquements à l'arrière de la tête. Ça fait un peu moins de bien immédiatement, mais je crois que c'est très utile aussi. Et donc voilà, vous voyez, ça fait moins d'une minute. Je ne sais pas s'il me reste le temps de vous le remontrer une fois pour que vous en rappeliez. Vite fait, c'est on, off, on, off. Ensuite, en avant. Ensuite, en arrière. Ensuite, disjoint dans un sens. Ensuite, disjoint dans l'autre sens. Ensuite, tournez la tête et ça fait un bien fou comme ça. Voilà. Et voilà. Happy hacking.
Merci Jérémy. On va continuer avec la présentation de Meta Baron sur les décisionnels en groupe avec Echo.to.
Alors, bonjour. Je suis David Vinancio, développeur multiplateforme et orienté applicatif. Voilà, donc je m'intéresse en fait aux applications qui traînent sur le web et aux nouvelles formes en fait. On va dire de nouveaux outils de communication, quoi, principalement, quoi. Donc, je suis un grand fan, par exemple, d'IRC, voilà, qui est un peu le précurseur de Twitter et des Facebook et trucs, tout ça. Donc, par exemple, IRC est un protocole pour moi, en tout cas, de mon point de vue, un protocole de réseau social. Déjà, IRC, hein, c'est un protocole pour faire des réseaux sociaux, en fait. In my humble opinion. Alors voilà, donc après, voilà, les applications sur le web, c'est des nouvelles manières d'organiser les données, d'organiser la manière dont on décortique les problèmes. Et par exemple, ça peut aider à résoudre des conflits. Ça peut, il y a un grand nombre d'applications. Donc, je vais pas m'étaler beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, les personnes qui débutent sur le web peuvent se renseigner assez facilement sur, les modules qui permettent de travailler en équipe et de travailler en groupe. Voilà, donc j'ai bossé dans les applications de groupware, quoi, donc aussi, C'est des applications qui servent donc, par exemple, à mettre au point les sujets de discussion d'une réunion, quoi. Donc l'agenda d'une réunion, en fait. Quels vont être les sujets de discussion d'une réunion, quelles vont être les priorités de discussion, enfin les priorités sur chaque sujet. Et voilà, à titre d'exemple, je reproduis beaucoup ce que j'ai vu dans le monde professionnel, en fait. Et dans le monde professionnel, il y a des applications vraiment de mise au point de sujets de discussion des réunions, quoi. Et, donc on m'a déjà demandé un gros développement spécifique, par exemple pour EDF-GDF. J'ai développé pour le comptoir opérationnel une appli à la con, vraiment, sous Lotus Notes, qui permettait, ne riez pas, j'en ai vu une ricaner. Et Lotus Notes, voilà, c'est un outil de groupware qui a super mauvaise réputation en France. Et bon, voilà, c'est un outil IBM qui est une plateforme de développement d'applications. Et c'est très utilisé. Et donc, je vais speeder des applications, de prise de décision en groupe. Par exemple, ça va être décortiquer un problème et d'argumenter autour de ce problème. Voilà, donc juste pour finir sur l'histoire d'EDF-GDF, ils ont payé très cher pour que je leur développe une application simplement pour mettre au point leur prochaine réunion, quoi. De quoi ils vont parler à leur prochaine réunion. Et c'était le comptoir opérationnel, quoi. Donc voilà, au siège à Paris, truc. Et voilà, ce que je vois dans le monde professionnel, pour les entreprises, etc., je pense qu'il y a il y aurait des bons points, pour le grand public, pour les citoyens, quoi. Voilà, le fond de ma pensée sur ça. Donc EcoTo, par exemple, pour avancer sur le truc, c'est un site qui est en bêta et qui permet, en fait, tu peux scroller, donc en fait, qui permet de monter des serveurs, on va dire, d'argumentation, quoi. Et donc, c'est écrit en ROR, en Ruby on Rails. Donc, je ne suis pas fan, moi, perso. Je suis développeur PHP MySQL. Voilà, mais bon, ça aussi, il y a des gens qui ne sont pas fans non plus, hein, TTH. non, mais bon, bref, moi, je me focalise sur le côté applicatif, quoi, les fonctionnalités d'un site, quoi. Après, je m'en fous du langage. Je ne suis pas intégriste sur les langages et tout. Je regarde plutôt qu'est-ce qu'on peut faire sur le site, quoi. Et donc, par exemple, eco.to, vous pouvez avoir des idées. C'est des questions en général, vous voyez. Donc, il y a des grands titres. Là, c'est multilingue, hein, c'est directement international. Et c'est un peu sponsorisé par l'Union européenne. Si tu vas tout en bas dans le pied de page, il y a. Ouais, sur la home, alors peut-être, excuse-moi. C'est dans About, Supported by, tout ça. Et donc, voilà, bon, vous pouvez vous-même vous renseigner sur le site. C'est un site qui, bizarrement, marche pas des masses, quoi. Les gens accrochent pas, je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai une petite idée, moi, sur ça. Il me reste 25 secondes, donc je vais speeder. Je vais juste essayer de me loguer, de vous montrer vite fait l'interface dans les 19 secondes qui me restent. attends, laisse voir. Donc, vous créez un compte, etc. Et c'est un truc décentralisé. Donc, c'est en Ruby on Rails. Ça mériterait d'être réécrit. Et l'ergonomie est très mauvaise. Voilà, ça permet d'argumenter. Je vous conseille vraiment d'aller voir eco.to.
Ok, on continue avec... ils sont là-bas, je crois. Tremzé, qui va vous présenter l'agenda, un nouveau concept pour se défaire de l'iPhone.
Bonjour, ça va être assez rapide. Alors en fait c'est non ça va prendre une minute en fait
à peine
donc du coup en fait j'ai préparé une application fait maison, donc ça s'appelle l'agenda. C'est une idée qui m'est venue en ratant tous mes rendez-vous. Donc j'ai pris un stylo.
Je peux parler à ma place?
Ouais, carrément, ouais. Du coup, voilà, alors du coup l'application, c'est simple, hein. L'heure de rendez-vous,
la date,
sa typographie,
calligraphié, hein. Tranquille, hop, mardi 12 à 13h30.
Voilà. Donc ça permet quand même de ne pas oublier ses rendez-vous et aussi personne ne sait le rendez-vous à part vous et les gens qui voient sur votre main. Donc il n'y a pas de problème d'espionnage par réseau, téléphone, tout ça. C'est hyper discret. Je vous conseille tous cette application. Ouais, non, ouais. T'es con. Putain, il a tout niqué.
Merci. On continue avec Okin qui nous parlait des clusters de désorganisation.
Ouais, puis je vais rester debout parce que j'aime pas être assis quand je parle. Alors, les clusters de désorganisation, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une bonne question. C'est sponsorisé par la NSA d'abord. Les White Hat de la NSA sponsorisent ce cluster de désorganisation. En fait, c'est un peu un mode de non-fonctionnement qu'utilisent beaucoup de groupes de gens, en ligne ou pas d'ailleurs, par exemple des gens comme Télécomics, des gens comme certaines personnes qui traînent dans les hackerspace, etc. Qui est en fait tout le processus qui permet d'accéder à une structure qui va avoir après parfois des associations, qui va avoir des CA, des responsables, des gens en charge, etc. Donc avant qu'on arrive là, on est dans ce qu'on appelle un cluster, un groupe de gens ou de machines, ou des deux, désorganisés. Moi, je milite pour que ces clusters de désorganisés continuent de rester désorganisés parce que c'est comme ça qu'on fait des choses super fun. Oula, elle ne cassait pas tout. D'abord, par exemple, un jour, on a un pote qui nous appelle « Hey, j'ai un copain dans un pays, il a un problème avec Internet. » Alors après, il s'avère que ce pays, c'était la Syrie. Hein. Et le petit problème avec Internet, c'était que, à force d'utiliser Internet, il se faisait et de s'organiser justement sur des réseaux sociaux centralisateurs et privateurs tels que Facebook et Twitter et ce genre de choses-là. Il se faisait arrêter, taper dessus, mettre en prison, torturer, tuer. Parce que bon, en France, on se fait arrêter, taper dessus, mettre en prison. Dans les pays moins civilisés, c'est torture et mort. Et puis de la famille aussi, et des enfants, tout ça. Donc, on a commencé à essayer d'abord avec notre non-organisation, avec deux potes, un soir, autour d'une bière ou d'un whisky ou de ce que vous voulez, on commence, on lance 2-3 scans de map, on trouve 2-3 appareils qui traînent, qui a priori sont des appareils appartenant à une société américaine, alors que les Américains sont en embargo commercial avec la Syrie, société américaine qui répond au nom donc de Blue Coat. On va en public, ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas nous, on n'a pas fait ça, c'est faux, vous mentez. Donc on montre les logs, les 56 gigas de logs d'interception et de monitoring qu'on avait trouvés, qui prouvaient que le gouvernement syrien de Bachar el-Assad espionner donc sa population à l'échelle globale. En fait, c'est facile, on fait des Nmap et puis on fait « Oh, un serveur FTP !» Bon, on se log, FTP, Anonymous, Anonymous. « Ah, on rentre !»« Oh, 56 gigas de log !» Bon, on va récupérer ça. C'est pour vous donner... Non, mais voilà, enfin... ça a l'air super compliqué d'aller foutre en l'air des systèmes de censure gouvernement. A priori, c'est nous qui avons l'avantage technique. Et on a aussi l'avantage du nombre, on a aussi l'avantage de la stupidité, de la bêtise, du fun, de s'éclater, de faire des trucs débiles. Qui sont donc par essence pas prévus. Enfin, je veux dire, toute la problématique qu'il y a sur des mouvements d'activistes classiques un peu organisés, c'est que y a une structure de décision. C'est des gens qui vont se regrouper en assemblée générale à certains lieux, à certains endroits, et qui donc peuvent se faire infiltrer. On peut anticiper ce qu'ils vont faire. Enfin, je veux dire, Telecomics ou Anonymous ou whatever, ou quel que soit le groupe qu'il y a, qu'ils aient un nom ou pas, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Ça, il y a personne, même pas eux, qui le savent. Un soir, ils vont se poser quelque part, ils vont boire un peu trop de whisky, ils vont faire « Hey, c'est quoi ce serveur en .gouv.fr sur lequel on a un accès route ?» Oups, cassé. Pas fait exprès. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de surtout garder en tête qu'il faut rester désorganisé. Parce que c'est comme ça qu'on s'amuse, c'est comme ça qu'on trouve des choses en fait, de tout ce chaos un peu bordélique qui traîne autour de tout ça. Les systèmes décisionnels en groupe, c'est bien, mais ça va, c'est intéressant pour les gros groupes qui sont très nombreux. Et une des limites, je pense, du cluster de désorganisation, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un niveau de confiance, comme de savoir vaguement avec qui on travaille, parce qu'après, il y a des gens de la NSA, ou de la CIA, ou de la DCRI, qui viennent discuter avec vous, qui viennent parler avec vous, qui viennent infiltrer vos réseaux, qui viennent essayer de récupérer vos réseaux. Et mine de rien, c'est très important d'avoir un système de confiance. Donc, que ce soit en utilisant la cryptographie façon GPG, ou parce que ça fait 15 ans que vous connaissez les gars, et que vous savez quand c'est lui ou quand c'est pas lui, juste quand il parle, ou quand il écrit, ou quand il balance de la merde. Ou parce qu'ils se connectent à 6h du matin un lundi soir, c'est pas normal. Ou un lundi matin peut-être, enfin bref. donc voilà, il faut, pour que ce genre de système fonctionne, il faut avoir un système de confiance pour pouvoir éviter le noyautage, et il faut rester petit. Et il ne faut pas hésiter à forquer quand il y a trop de monde et que ça devient trop la loose et qu'il y a des gens qui font « Oui, il faudrait peut-être qu'on mette en place un politburo » ou ce genre de choses-là. Il ne faut pas hésiter à forquer et aller monter un autre projet similaire ou pas, ou c'est d'ailleurs un non-projet et une non-organisation ailleurs. Voilà, il me reste 35 secondes et beaucoup de centièmes et de millièmes là. Ça change tout le temps, c'est chiant le temps. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup.
Donc, ce que tu es en train de me dire, alors je vais mettre bien face à la caméra, c'est qu'en fait, pour retrouver mes logs, il vaut mieux Anonymous que Splunk.
Voilà, on vient de terminer les Lightning Talk. Merci aux 9 personnes qui sont connectées sur le pad de ne pas avoir mis de photo de chat, alors qu'elles auraient pu profiter de ce moment pour participer au THSF. Et on va continuer avec le NOC qui nous a permis d'avoir un super internet pendant tout ce festival. Et avant et après sûrement, parce que les fibres optiques vont rester partout. C'est parti, Jérôme.
Ouais, on est un peu en mode warrior en fait. Alors, juste pour la petite explication, donc les trucs qu'on tient, Bertrand et moi, ce sont des marteaux à plaques. Ça sert à ouvrir les chambres, entre autres de France Télécom ou d'autres, dans lesquelles on passe les câbles, notamment les fibres optiques de nos jours. Et là, c'était une pioche. En fait, c'est le manche de la pioche parce qu'il venait de la défoncer sur du bitume. Voilà. On a fait une petite vidéo qui raconte un petit peu l'histoire donc du montage du réseau qui a commencé le 28 mars sur une idée à la con. C'est, on s'est dit, on veut faire du stream, on veut que tout soit bien diffusé, on veut se fendre un peu la gueule, on ne va pas pouvoir utiliser Tétan Neutral comme on l'avait fait l'année d'avant parce qu'on commence à être un peu trop nombreux dans Tétan Neutral, donc on ne peut pas tout casser juste pour s'amuser. Et ben, on va en refaire un. Donc on a refabriqué un opérateur IP. Puis on s'est dit, au point où on était, ouais, mais un opérateur IP, si on le fait pour le casser, pour le streaming, c'est pas top parce qu'il faut quand même que ça marche. Bon, on va en faire deux. Ouais, puis ce serait bien quand même que le réseau marche avec le très gros débit et qu'on puisse streamer et qu'on puisse aussi faire des tests. Donc en fait, on en a fait trois.
Ouais, on a fait trois.
Voilà. Donc. Donc en fait, pour le festival, on a demandé trois numéros d'AS, donc de réseau sur Internet, des blocs d'adresse IP V4 et V6, on a collecté du matériel à droite à gauche, on s'est cotisé pour louer une pelleteuse et on a refait une tranchée pour tirer un câble, souder des fibres et remettre des routeurs. Donc il y a des photos et des vidéos, c'est un peu le bordel en fait, parce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de ranger, de tout publier. Donc ça, voilà, ça c'était la séance de soudure. Alors en fait, l'attente c'est normal, c'est parce qu'il pleuvait. Mais comme on s'était déjà pris une semaine de retard à cause du coup de la pelleteuse, on s'est dit on allait quand même le faire.
Il est beau.
Je ressemble encore plus à rien là-dessus. Voilà. Donc on a eu beaucoup de contributions. Là, c'est comment il s'appelait d'ailleurs le
Rémi. Thomas... Rémi.
Non. Ah, non. Le... Voilà, donc on a au total une vingtaine de personnes qui ont bossé sur le projet. Ça nous a permis donc de refabriquer un réseau. Toutes les fibres vont continuer à servir pour Tétan Neutral. Et on s'est retrouvé donc pendant le festival avec la connexion internet la plus rapide du Sud-Ouest.
Quand même.
Et vous n'avez pas été foutu de vous en servir. Combien de litres de bière ? Litres de bière, 45 de 30 litres et 20 de 20 litres. Tu peux nous montrer le graphe ? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le graphe de débit. Donc sur un des transits, donc CodeGen qui nous avait filé un port pour juste pour le festoche. Donc voilà, on a bursté. Alors, en fait, on a bursté un petit peu plus parce qu'on a équilibré sur les deux. Et au total, grosso modo, on est monté à 1,4 gig. On en avait trois de dispo.
Une pointe à 1,4 gig.
Une pointe à 1,4 gig. Mais en stable, on était à 160, 180 mégas.
Ouais, dans ces zones-là.
Voilà. Donc vous n'avez pas été foutu d'utiliser le dixième du réseau.
Bouh. Voilà.
Alors, le truc, c'est que c'est même pas de votre faute. 1700 litres de bière. On a appris à monter du réseau. On avait une équipe motivée, on a bien échangé entre nous, ça a donc du coup fait monter pas mal de monde en compétences. On a surtout du retour sur tout ce sur quoi on a merdé. On a merdé sur le matos Wi-Fi, on a merdé sur pas assez de switch et de câble réseau, et on a merdé sur pas assez de doc et de sujets de troll autour du réseau.
Et sur le choix de logiciel propriétaire pour la virtualisation, faut le dire.
Oui.
Et l'open source a gagné.
Bah oui, mine de rien, c'était plus facile à faire tomber en marche. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine. On va s'y reprendre 2-3 mois à l'avance pour remonter le réseau. Alors on aura moins de physique à faire, mais pour la partie service, système et approvisionnement, on va appeler à plus de contributions. Et l'année prochaine, ça déchire. C'est pas 3 fois 1G, c'est 3 fois 10G qu'on aura.
Au bas mot, quoi.
Pardon ? Beau plus statique, on devait être à. On est monté à 400-500 machines ?
Non, moins. En comptant tous les téléphones, les smartphones, ouais. Wi-Fi, tout ça. Ouais, 200-300, je dirais. Bon, allez. 350, on coupe la brande, quoi.
Donc 300 selon la police et 500 selon les organisateurs.
Okay. rapide calcul sur Internet, parce qu'on n'a que des calculettes maintenant, ça fait 1700 litres de bière écoulés dans le week-end. Voilà, donc on profitait là maintenant tout de suite. On a les quelques derniers fûts à vider. Et plus la brune, non? Il en reste quelques-unes de brune aussi? Ok, bon,